Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et bonjour Aline. Et en compagnie de Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Donc dans cette série Demeures et Familles, nous poursuivons, nous changeons de rue, mais nous n'allons pas très loin de l'hôtel que nous avons évoqué la dernière fois. Nous partons du côté de la rue des Couteliers, de la rue de la Dalbade, à l'hôtel de Bagis, ou hôtel de Clary.
Ou hôtel d'Aguin.
L'hôtel d'Aguin.
Mais aussi l'hôtel de Pierre.
Et on ne peut pas le manquer. En montant la rue de la Dalbade, l'hôtel de Pierre,
à l'adresse 25,
s'affiche avec beaucoup, beaucoup de décors.
Alors, on va essayer d'y voir un peu clair, parce que ça a l'air évident, comme ça, une belle façade en pierre, l'unique, on peut le dire, Toulouse, même assez surprenante. Et en fait, c'est une histoire assez complexe, c'est une construction qui s'est faite en plusieurs temps, et elle a une originalité, cette construction, n'est-ce pas ? C'est le premier témoignage à Toulouse, d'abord, on vient de le dire, d'une architecture tout à fait importée, mais surtout de l'idée d'un immeuble de rapport, c'est-à-dire...
qu'un hôtel particulier, finalement.
Il y a un calcul dans le projet initial.
Oui.
Bon, pour commencer par le commencement, on a un parcellaire qui est très médiéval. Dans cette partie de Toulouse.
Bon. Caractéristique de Toulouse et d'autres villes.
On ne peut pas encore parler de quartier parlementaire, et pourtant ça sera l'épicentre dans quelques temps, enfin à partir du XVIe. Et donc, parmi les plus éclairés de ces élites, on investit ces champs, enfin ces parcelles, pardon, ce ne sont pas des champs, qui surplombent la Garonnette. La rue de la Dalbade, elle est parallèle, elle est nord-sud, mais entre la Garonnette et Tunis, si vous voulez, la rue de la Dalbade. Donc on a un parcellaire qui est bien placé, parce que déjà on peut évacuer tout ce qui est évacué dans la Garonne.
On a un parcellaire qui est un parcellaire en languette, là, qui est le parcellaire médiéval.
Oui, médiéval.
Étroite.
Et il s'est trouvé un certain Jean de Bagis, donc première appellation de l'hôtel, comme disait Sébastien, c'est encore dans le jeu de cartes, le jeu des sept familles, il n'est pas loin du roi. Puisque c'est une élite du Parlement, on va en dire peut-être un mot de sa carrière, étroitement liée au milieu humaniste.
Ah.
Première moitié du XVIe siècle. Il fait ses études de droit à Toulouse, mais aussi en Italie, donc il s'imprègne de tout ce qu'il faut comme bagage juridique et culturel. Il enseigne le droit, puis il devient conseiller au Parlement de Bordeaux. Il fait un grand détour, et tellement grand qu'il passe par le Grand Conseil du Roi. Donc, c'est gens qui avaient fait leurs écoles au plus près du pouvoir central. Bon. Et ils reviennent à Toulouse, quand même assez surprenant de notre point de vue. Mais tant mieux pour Toulouse.
Oui.
Donc, avec tout ce bagage, il va choisir le meilleur... architecte de l'époque, puisqu'il va, dans un premier temps, 1535, la décennie, racheter donc 5 maisons étroites sur la rue de la Dalbade.
Ah oui, alors ça c'est intéressant ce que vous dites, Michel, parce que après le grand incendie du milieu du XVe siècle à Toulouse, tout a flambé, parce que Toulouse, vraiment 80% de la ville pratiquement a été brûlée, et on n'a pas reconstruit parfois sur ces parcelles qui ont resté dans leur physionomie médiévale, c'est-à-dire des languettes étroites.
Surtout leur emprise, voilà.
Et on doit à des grands pasteliers, on doit à des parlementaires d'avoir racheté un certain nombre de parcelles qu'ils ont mutualisées pour construire ces beaux hôtels.
L'assiette foncière,
l'assiette cadastrale
même. Alors voilà un exemple typique avec l'hôtel de Bagis. Donc, je le rappelle, pour nos contemporains, il s'agit bien de l'hôtel de Pierre. On est bien dans le même espace foncier, cadastral même. Mais ça s'est fait, comme vous le dites, en plusieurs, périodes. Et en 1537, Jean de Bagis commande à Nicolas Bachelier un nouvel hôtel particulier. Alors, c'est celui que l'on découvre aujourd'hui en rentrant dans la cour.
Oui.
1538, donc, cette grande maison qui a la particularité d'avoir un portail aux Atlantes. Voilà, qu'on peut toujours admirer. En revanche, la façade elle-même a été reprise. Oui. Les baies, enfin, les croisées ont été remplacées par des menuiseries bois. Donc, ce Jean de Bagis, qui est donc une de ses élites, a l'élégance de faire passer les marchés de cette nouvelle construction, architecte bachelier, par sa femme, Madame de Bagis, à la signature. Donc, vous voyez, quelquefois, on a trop tendance à croire que c'est qu'une affaire d'hommes, de messieurs, et en fait, elles avaient le pouvoir et peut-être la bourse.
Alors, il voulait aussi peut-être séparer les responsabilités, parce que peut-être que lui pouvait être accusé quelque part.
Ça, je n'ai pas regardé dans les sacs à procès, voilà. Je n'ai pas été jusque-là, ou dans les archives.
Bon. Parce qu'il oui. Il se disait à Toulouse un petit quelque chose, il disait « Ah ben, Jean de Bagis a autant de pierres dans son hôtel que de pierres au Pont-Neuf. »
Alors ça, vous anticipez un petit peu sur la suite. Mais non, c'est pas du tout. C'est intéressant de l'avoir en tête parce qu'effectivement, il ne va pas s'arrêter à cet hôtel de fond de cour. Plutôt, c'est son fils qui va achever, disons, la construction, hein, que nous considérons aujourd'hui. Son fils Jean II de Bagis. Alors après, c'est une série de mariages et de transmissions. C'est un petit peu compliqué à développer ici, mais la fin la deuxième moitié du XVIe, fait que à la suite de ventes, d'échanges, exactement, on arrive à une vente, parce qu'il y a des ennuis financiers, au tout début du XVIIe siècle. Et cette vente par un descendant de Jean de Bagis se fait à Nicolas de Guerrier. Et c'est ce Nicolas de Guerrier qui n'est pas un personnage de l'élite parlementaire, absolument, puisque c'est un apothicaire.
Tiens.
En gros, un scientifique, un médecin.
Oui.
Et il a fait sa fortune grâce à sa boutique qui était implantée rue des Pélégantiers, je ne sais pas où c'est. Je crois que c'est près de la rue du Mai, ou c'est même rue du Mai.
C'est même, je vous dis, rue du Mai.
Bon, toujours près de notre
siège. Il y en avait
siège,
deux rues des Pélégantiers. Hein.
D'accord. Ouais. Bon, ce Nicolas de Guerrier, en tout cas, il passe par le Capitoula. C'est le seul moyen pour jouer dans la cour des grands. Il meurt en 1606, mais dans ce court laps de temps, 1600 à 1606, eh bien, il a le temps d'épouser ou de donner sa fille, pardon, Gabrielle, à François de Clary. Et c'est là où l'hôtel change de nom, il devient l'hôtel de Clary, puisque c'est François de Clary, donc son gendre, qui sera un grand président au Parlement de Toulouse, qui va réunir la totalité des biens de Jean de Bagis, qui avait été éparpillé pour des différentes raisons, et notamment des revenus locatifs, et commande à ce moment à Pierre Souffron, l'architecte célèbre à Toulouse, et c'est là où nous retrouvons l'anecdote.
Ben voilà. Hein,
l'anecdote que...
Du Pont-Neuf,
où il y avait plus de pierres, n'est-ce pas, destinées à l'édification du Pont-Neuf, dans l'hôtel de pierre que de pierre au pont.
Et oui, alors on comprend mieux ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, il pouvait être accusé de malversation,
voilà, mais il
de
va
prise
disparaître
illégale
assez vite.
D'intérêt.
Ah, oui. Il n'a pas le temps de se défendre. C'est encore une fois sa fille.
Il décède
voilà.
De bonheur.
Tout premier président qu'il soit, sa fille va le vendre à Richard de Jean, qui est un marchand, qui s'est enrichi, donc toujours la même trajectoire. Et à tel point qu'il recherche le Capitoula. Il est à plusieurs reprises, 1657, 1671, 1682, pour situer dans le temps. Et il achète la baronnie de Launac.
Ah oui.
Et cette baronnie de Launac...
Qui a déjà son château, je ne me rappelle plus, l'époque du château de Launac.
Écoutez, je pense qu'on en parlera une prochaine fois, parce qu'on va ouvrir là aussi à des horizons et surtout quitter Toulouse, le territoire.
Voilà, on est dans les correspondances entre la ville et la
campagne. Le patrimoine urbain et les biens à la campagne. Et ça sera très intéressant à explorer une prochaine fois. Mais je voudrais quand même revenir, avant de sauter à travers les siècles, sur la personnalité de François de Clary. Donc, rappelons-le, hein, l'hôtel de pierre, c'est l'hôtel de Clary avec une façade en pierre.
Et
ce François de Clary a eu le génie, si vous voulez, de réunir, donc les, nous l'avons dit, toutes ces constructions éparses. En fait, je pense que c'est l'architecte Souffron qui a été l'ordonnateur de cette nouveauté. On est au tout début du XVIIe.
De la grande façade sur
la grande façade sur rue, oui, absolument.
Ah, oui, oui, oui.
Au fait, Aline, elle a été restaurée dans les années du XIXe siècle.
Elle a été restaurée au XIXe siècle, tout à fait. Vous savez, l'hôtel de Pierre, il est tellement connu à Toulouse que la moindre, le moindre petit coup de pinceau, la moindre restauration de l'hôtel apparaît toujours comme une agression. Alors que finalement, cet hôtel, il a subi, enfin, il a eu plusieurs années de construction, ce qu'on a tendance à oublier, bien sûr.
Et on observe que...
On dit souvent qu'il y a beaucoup de 19e sur la grande façade, sur la rue, mais bon.
Bon, c'est un débat de spécialistes, bon. Peut-être.
Oui, oui, voilà. Oui. On a été un petit peu copieux dans l'ornementation avec l'intervention du 19e.
Voilà, et comme souvent, le commanditaire, même... n'a pas vu son œuvre achevée.
Eh oui.
Et c'est nous qui en bénéficions longtemps après, et on peut passer tous les jours devant et l'admirer.
En tout cas, voilà un très bel édifice, emblématique aussi de la ville, ben aussi par son originalité, et la destination de cet édifice qui quand même est une rareté. Voilà un édifice conçu aussi pour être loué.
Et je crois que c'est son destin aujourd'hui, continue à être occupé par des personnalités. Pour terminer, nous en connaissons une aux Toulousains de Toulouse, qui a habité l'hôtel de Pierre.
Ah, ben bien sûr,
le président Pierre de Gorce, je crois à l'étage noble, au premier
étage.
Oui, oui,
tout à fait, tout à fait.
Gardons sa mémoire.
Merci beaucoup, Michel. On va regarder de notre œil notre bel hôtel de Pierre.
Et on en dira peut-être un mot, si vous voulez bien, la prochaine fois.
Oui.
Au XVIIIe siècle.
Très bien.
Bonne semaine.